Vous écoutez bien La Troisième Rangée, votre podcast bimensuel des sorties cinéma, dans lequel on va revenir sur les sorties des deux précédentes semaines. Avec nous aujourd'hui, Loris. Bonjour Loris.
Bonjour.
Qu'est-ce que tu pourrais nous recommander ?
J'ai vu un film en Projo Press assez incroyable, ça sort en juillet. C'est très bien que j'ai pensé à en parler parce que c'est un tout petit film. Ça s'appelle Nadia Butterfly. C'est sur une femme de 23 ans qui est aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et qui décide d'arrêter en fait sa carrière de nageuse à 23 ans,
ce qui est un peu tôt. Oui.
Ce qui est tôt, et en même temps, elle fait ça depuis qu'elle a 11 ans et on comprend qu'elle a jamais eu de vie, qu'elle a jamais eu de copain, qu'elle a jamais vécu. Et c'est très très touchant en fait. Il y a par exemple un dialogue où on lui dit je connais personne qui a voyagé autant que toi, et elle dit ouais, mais j'ai vu que des piscines, et la piscine de Budapest et la piscine d'ailleurs c'est la même en fait, et donc c'est très touchant. C'est un tout petit film, c'est canadien, donc c'est avec ce langage génial de franglish, très drôle, avec notamment une réplique let's go on va swimmer, et c'est pas une comédie, c'est un gros drame, mais alors ça se passe en quasi une nuit en fait, presque en temps réel. Il y a très peu beaucoup de longs plans séquences, etc., où on la voit réfléchir. Elle sait pas si elle va vraiment arrêter, si elle va arrêter, etc.
C'est une fiction.
C'est réalisé par un mec qui est un ancien nageur olympique et qui en fait, dans la note d'intention un peu, il disait le post comment il appelait ça, le post Jeux Olympiques blues en fait, ou en tout cas quelqu'un qui fait un sport à un haut niveau et termine une grande compétition, l'espèce de sentiment où il n'y a plus rien dans ta vie,
le
en
vide,
fait,
hein.
Ouais, voilà, il y a un vide total, et on la voit marcher, en plus elle est dans Tokyo, il y a un côté Lost in Translation où elle est là, Tokyo quoi. Et donc ça, il y a aussi un passage assez génial sur les orgies, parce qu'en fait c'est un village, les villages olympiques en fait,
oui.
Ils sont entre sportifs, etc. Et moi, quelque chose que je ne connaissais pas d'ailleurs, mais effectivement quand ils font des soirées après avoir fini leur course, etc., en fait il y a une impression de là ça fait un an qu'on s'entraîne et qu'on n'a pas de vie, là on a une soirée où on peut manger McDo, boire ce qu'on veut, baiser qui on veut et tout, et donc effectivement ils vivent à 3000 km/h une soirée quoi. Voilà, je conseille Nadia Butterfly, ça sort en juillet, je sais pas la date exacte, mais c'est vraiment superbe. J'ai peur que ça soit dans très peu de salles, voilà, gros coup de cœur.
D'accord.
La scène dont tu parles là, d'orgie, c'est cru, hein,
Non. Enfin, comme je te dis, c'est filmé très, tu vois, une caméra, beaucoup de plans fixes, etc., temps réel. C'est quand même indiqué. En fait, en plus, c'est, si tu veux, t'as tout un truc aussi sur le corps, en fait, parce que les nageuses, donc, elles ont ces espèces elles ont des bras, mais incroyables, en fait. En plus, c'est Nadia Butterfly pour le papillon. Donc,
ouais.
C'est que de l'explosivité, etc. Donc, t'as tout ce truc autour du corps, etc., et aussi de l'apparence, donc, c'est pas très cru, mais c'est, c'est très étonnant comme film. Ça mélange une sorte d'ultra réalisme à des passages un peu rêveurs et tout ça. Pour le coup, on va parler de Nomadland tout à l'heure, et je trouve que c'est un peu sur des genres qui se rapprochent, et je trouve ce film beaucoup beaucoup plus intéressant que Nomadland pour le coup, donc
d'accord,
ouais.
Je pense qu'on en reparlera certainement à l'émission,
ouais,
avec on y sortira,
plaisir,
parce que
avec
ça a l'air bien, hein. Autour de la table, nous avons également Justin. Bonjour Justin.
Alors ma reco culturelle, ça sera un livre donc de Philippe Brunel qui s'appelle Laura Antonelli n'existe plus. En fait, c'est une espèce de roman, entre roman et fiction, sur de biographie, entre biographie et fiction, sur l'actrice Laura Antonelli. Alors, qui est Laura Antonelli? C'est une actrice qui a eu un grand succès, on va dire, fin des années 60 et début des années 70 en Italie, donc qui s'est fait connaître au départ en ayant des rôles. Voilà, c'était une très très belle femme. Elle avait été, je crois, c'était Visconti qui avait dit d'elle que c'était la plus belle femme du monde. Donc en fait, elle a débuté en jouant dans des comédies italiennes un petit peu, qui jouaient un peu sur son physique avantageux, comédie un petit peu sexy. Et puis au fur et à mesure, elle a eu, elle a montré vraiment une vraie palette dramatique. Elle a tourné avec les plus grands, donc Dino Risi, Bolognini, Ettore Scola, Visconti justement. Donc elle a une très belle carrière dans les années 70, début des années 80. Et donc il lui est arrivé, elle a eu un drame on va dire, au début des années 90 où voilà, elle était déjà un petit peu vieillissante et elle a eu alors tout d'abord oui, elle a eu une perquisition chez elle, une sorte de voilà, plus ou moins coup monté pour faire l'exemple un peu parmi les stars où on avait découvert des grammes de cocaïne chez elle. Donc elle a été un peu livrée en pâture aux paparazzi, aux médias, a été jugée, a été incarcérée alors que bon, parce que la cocaïne dans les milieux des stars c'est probablement pas la seule, mais apparemment c'était pour une sorte d'exemple là-dessus. Ensuite, elle a voulu tourner un film qui s'appelait Malidia 2000. C'était la suite de Malidia, un film qu'elle a tourné au début des années 70, qui est le rôle qui l'a vraiment fait exploser, le rôle un peu sensuel, un peu sexy, qui a amené cette image-là d'elle. Elle a voulu tourner une suite au début des années 90 là-dessus. Et donc les producteurs, pour qu'elle ait l'aspect, elle garde un peu l'aspect juvénile du premier film, lui ont demandé de faire des injections de collagène.
Ah, dur.
Et le souci, c'est que donc elle a accepté, enfin ils ont lourdement insisté, elle a accepté, sauf qu'elle a fait une allergie au collagène, et elle a fini défigurée. Donc carrière au cinéma terminée, là aussi c'est devenu la proie des paparazzi pour l'officier lui montrer des photos un peu volées de l'avant après. Puis ensuite, voilà, elle a des mauvaises connaissances, des faux amis qui ont un peu profité d'elle. Donc elle a fini ruinée. Donc voilà, elle est morte en 2015 dans la misère, dans un petit appartement dans la misère.
Le film sort quand ? Parce que c'est tellement notre époque pour faire un film comme ça.
Voilà, elle est morte en 2015, totalement dans la misère. Et donc en fait, l'ouvrage donc, de Philippe Brunel s'attache à... En fait, c'est une actrice dont on sait très peu au final, elle était assez secrète, donc on sait très peu de la vie intime. Enfin, on sait qu'elle était en couple dans les années 70 avec Jean-Paul Belmondo, donc ils ont rompu au début des années 80, et puis ça a été un peu le début de la fin pour elle. Donc c'est... Mais finalement, on en sait assez peu d'elle. Donc Philippe Brunel s'engouffre là-dedans, il prend des éléments de sa vie personnelle qui est connue, et puis il interprète un peu les causes qui ont pu être de cette déchéance future. Et donc, voilà, il y a une interprétation, voilà, ça se passe... Enfin, il y a une pseudo-fiction, mais c'est quand même assez vrai, c'est-à-dire que le postulat, c'est que c'est un journaliste qui se rend en Italie, qui est mandaté en Italie pour rencontrer Laura Antonelli, pour obtenir ses mémoires. En fait, c'est à moitié d'histoire que Philippe Brunel s'est vraiment rendu en Italie, mais à titre personnel, pour la rencontrer... Il l'a rencontré, d'ailleurs, c'est un passage qui est dans le livre, une rencontre, enfin, ils finissent par avoir un tête-à-tête ensemble. Et donc, il a rencontré diverses personnes qui l'ont côtoyé, parce qu'elle a coupé les ponts avec le showbiz, elle est vraiment rentrée dans la religion, elle est devenue très pieuse, elle a complètement coupé les ponts.
Mais du coup, il y a un côté un peu Citizen Kane, genre, t'apprends à connaître un personnage à travers ce qu'on sait d'elle publiquement et les personnes qui l'ont côtoyé. Ouais.
Donc il y a les retours des personnes qui l'ont côtoyé, donc on découvre un aspect un peu plus torturé, un peu plus complexe que ce qu'on voyait d'elle dans les films. Et donc c'est très intéressant. Donc c'est des vraies rencontres qu'il a fait, mais qui fictionnalisent dans le livre finalement. Et donc c'est très intéressant. Et puis c'est un petit voyage pour ceux qui aiment le cinéma italien, voilà, de cette période-là, des années 60-70. C'est un voyage dans les anciens décors, on rencontre des anciennes grandes personnalités de l'époque, des décorateurs, des costumiers, voilà, qui racontent un peu ce qui a pu se passer. Et donc on en sait un peu plus sur elle, voilà, sur ses origines. Enfin, j'en dis pas plus, je laisse lire le livre, mais voilà, on en découvre plus sur ses origines, ses rapports avec ses parents, ses mœurs, la façon dont, en fait, sa déchéance future, ce qui va lui arriver par rapport aux médias, c'est une forme, en fait, de punition de la société un peu puritaine italienne, c'est-à-dire qu'il lui a pas pardonné sa liberté de mœurs qu'elle a pu avoir dans les films où elle se dénudait, où elle avait des rôles un peu séducteurs. Donc c'est une forme de retour de bâton moral, en quelque sorte. En tout cas, c'est l'interprétation que lui a. Et puis on peut le voir comme ça, vu qu'elle a fini, parce qu'elle a eu une éducation très religieuse, on peut dire qu'elle a dû imaginer ça aussi, elle, comme une sorte de punition divine par rapport au comportement
Oui, puis c'est le fait de, finalement, Hollywood et le cinéma ne veulent toi que quand t'es jeune, finalement.
Oui, aussi,
on va citer Frances McDormand et Glenn Close, mais en fait, il y en a quoi? Il y en a 5, des vieilles actrices qui font des films, mais...
Et encore, oui, mais en plus, ces actrices-là, elles n'ont pas été jeunes. Elles ont pas fait leur carrière sur leur beauté.
Ouais, j'allais dire c'était pas des bombes, mais tu l'as bien dit. Mais effectivement. Effectivement, t'as totalement raison.
Du coup, alors qu'on a d'autres exemples, il y a Greta Garbo, il y a Marlène Dietrich, où ils ont fini leur vie un peu de la même manière en étant.
Alors que t'as Betty Davis, qui a fait une carrière vieille parce que quand elle était jeune, elle jouait pas sur son physique.
Joan Crawford aussi.
Elle jouait un peu plus sur son physique.
Elle
a réussi à avoir une carrière plus âgée.
C'est vrai.
Mais bon, voilà. Mais après, c'est l'entourage, parce qu'aussi, on voit dans le bouquin que voilà, l'entourage un petit peu néfaste, un peu toxique peut jouer aussi. Donc voilà, Laura Antonelli n'existe plus, de Philippe Brunel. Donc c'était publié au mois de février. Bon, on le trouve encore toujours très facilement. Publié chez Grasset.
Très intéressant.
Merci, Justin. Merci. Notre invité de cette fois est le même invité que la fois dernière. C'est Sébastien. Bah, du coup, je te demande pas de te représenter. Parce que,
je pense que ça ira. Direct passer à la recommandation. Alors, je vais citer un livre, là, contrairement à la dernière fois, qui est sorti hier, qu'on peut trouver, pour ceux qui connaissent, à Metaluna, à Paris. Je pense pas que ça se trouve spécialement dans les grandes surfaces comme la Fnac, au vu du contenu. Donc, je vais parler d'un livre doux nom de Horror Porn, La fesse cachée du cinéma. Écrit par Damien Granger, donc pour ceux à qui ça parle, c'est l'ancien rédacteur en chef de Mad Movies, qui, on s'en souvient, la ligne éditoriale du magazine à l'époque était quand même assez différente d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire que ça laissait beaucoup la place dans les notules lunaires ou même dans le contenu du magazine à des séries B ou Z, un peu, c'est beaucoup de DTV, des films sexy avec des affiches très aguicheuses, des actrices comme ça, pin-up. Enfin, il a vraiment une culture comme ça de série B, Z, un peu nanar, mais très sympathique, quoi. Et il a sorti donc plusieurs bouquins depuis quelques années. Alors, je les ai pas les précédents, mais je crois que c'était sur les. Comment ça s'appelait, mais je crois que c'est justement, il a sorti des bouquins sur les affiches de série B, de Monster Movie, de trucs comme ça.
C'était pas lui qui avait fait un bouquin sur les Rednecks, là?
Ça c'était Maxime Lachaud, je crois.
Okay,
mais enfin voilà, il a déjà sorti des bouquins là-dessus. Il est très centré sur les affiches comme ça. Et donc il se consacre à toute une frange du cinéma d'exploitation, particulièrement en fait qui a émergé à partir de, on va dire, de la fin des années 60. Plutôt années 70, quoi, et jusqu'à aujourd'hui, mais ça a vraiment été au top dans les années 70, en fait, au temps où il y avait les salles spécialisées de double programme ou triple programme, enfin, et notamment à New York avec les salles mal famées de la 42e rue, où on pouvait trouver vraiment les trucs les plus crapoteux qui soient. Et là, donc, il se concentre sur Horror Porn, son titre l'indique, sur l'horreur vraiment la plus underground possible, qui mixe comme ça les éléments les plus racoleurs qu'on puisse attendre de ce genre de film, donc des films souvent très fauchés, pas forcément ce qu'on peut imaginer d'une certaine qualité, mais en tout cas, très représentatif d'une époque où les films étaient produits vraiment à très peu de frais. En fait, fallait alimenter les salles à tout prix, donc les films étaient produits à la chaîne, comme ça, un peu sur le mode aujourd'hui d'un certain du porno contemporain, quoi. Voilà, où c'est il faut produire. Sauf qu'à l'époque, c'était destiné à sortir dans les salles. Et donc, le bouquin, là, alors j'ai pas pu encore le lire parce que c'est sorti hier, c'est plutôt le genre de bouquin, en fait, qu'on prend, qu'on repose, on va choper un truc comme ça qui nous intéresse un peu. C'est quand même assez massif et. C'est pas le genre de bouquin qu'on peut lire comme ça d'une traite. Déjà, c'est pas forcément simple à tenir dans ses mains. C'est vraiment le bel objet, quoi. Mais c'est très richement illustré. On peut le feuilleter comme ça dès que l'envie nous en prend. Il y a des chouettes affiches. Alors, c'est très cru, hein, très explicite derrière.
C'est un beau livre d'horreur.
Ouais, vraiment pour les adultes. Derrière, il y a bien marqué que c'est interdit aux moins de 18 ans. Il y a vraiment des images très explicites dedans, mais avec beaucoup d'illustrations et de textes aussi. Et il y a un bon esprit. C'est très. Très libre, quoi. Il y a des textes un peu comme ça dans tous les sens. C'est très, c'est pour ça, voilà, on peut le lire un peu comme on veut et c'est très agréable, quoi. Pour qui, et même si on n'est pas fan forcément de ce type de cinéma, si on s'intéresse un peu à toutes les franges comme ça, les plus obscures du cinéma, ça permet de se rappeler ou bien de découvrir un type de production en fait, comme ça il ne s'en fait plus, enfin il va en fait jusqu'à aujourd'hui, il y a des productions modernes dedans, mais sauf que c'est plus produit de la même manière en fait, donc on voit l'évolution comme ça. Et et voilà, pour les fétichistes, les amateurs de bizarreries et de trucs vraiment underground quoi, c'est vraiment un super objet. Par contre c'est faut y mettre le prix, ça coûte 45€, mais bon c'est
ouais.
Et je pense pas que ça se trouve à la Fnac, en effet, parce que la jaquette est vraiment vraiment explicite.
Sous blister,
quoi. Ouais, je pense. Voilà. Tu fais pas le fier si tu vas en caisse à la Fnac avec ça, quoi. Par contre, à Metaluna, bon, ça passe. Donc voilà. Ça,
j'ai très envie de le lire parce que.
Bah, moi aussi, du coup.
c'est le côté aussi, quand tu as des bouquins sur un cinéma qui est déjà souvent, les films sont durs à trouver. Et tout ça, c'est que je me dis, ce mec, il a passé. Des mois, peut-être des années dessus, et je sais que dedans il est capable de me dire quels sont les 5 films que tu dois voir pour sûr.
Oui,
sur
oui,
les 3000 que j'ai vus,
il y a ça, ouais.
Je te conseille vraiment ces 5 putains de films complètement tarés, et je pense que dans le livre ça doit.
Bah, c'est par catégorie, par époque, ouais. Par vraiment sous-genre, tant qu'on reste dans l'intitulé du bouquin, quoi. Donc c'est toujours un peu mélange, je sais que c'est d'horreur, mais avec plusieurs registres quand même, et en effet il y a toujours des filmographies comme ça.
J'avais lu une interview de lui où déjà il citait 4-5 films, et les 4-5 films avaient l'air incroyables, quoi, vraiment, quoi. Ça avait l'air de pousser, parce que je pense que c'est des films qui, vu que t'as pas de budget, etc., ce que tu cherches, la transgression, finalement.
Voilà, c'est ça.
Surtout quand tu mélanges de l'horreur et du porno, ou du sexe en tout cas, c'est que tu vas chercher quel est le truc que personne n'a montré au cinéma, quoi. Donc,
et justement, en fait, quand on revient aux années 70, là, quand on compare, dans le bouquin, il parle de toutes les époques, quoi, mais on se rend compte que les films qui étaient produits comme ça, où on voit les photos, ou même, le simple fait de savoir que ce type de cinéma existait à l'époque, c'était vraiment une transgression, en effet. Aujourd'hui, quand on fait ça, ça n'a plus la même signification, parce que les gens, avec Internet, il y a tellement de façons de consommer les images comme ça, même les plus interdites, entre guillemets, qu'il n'y a plus de notion de n'importe quel gamin, même peut tomber sur des trucs qui sont pas pour eux, alors qu'à l'époque c'était vraiment destiné aux salles mal famées, c'était vraiment, il y avait un côté tu vas là-bas mais tu prends un risque, quoi. Autant pour le public de ce type de salle que pour le contenu du film, parce qu'on avait encore jamais vu ça à l'époque. Et du coup les mecs qui faisaient ça, en effet, ils avaient vraiment à cœur de transgresser, de bousculer la société, de montrer des choses qu'on n'avait pas le droit de montrer normalement. Et du coup, voilà, je pense que si on arrive à tomber sur certains de ces films aujourd'hui, ça a clairement remis dans le contexte, ça a une portée qu'on ne peut plus retrouver aujourd'hui. Et donc, en effet, c'est fascinant de se dire qu'un mec comme ça, qui est passionné, on se dit, mais comment il voit tous les films? En plus, il fait des interviews aussi de mecs justement de cette époque qui sont encore en vie. Enfin, c'est vraiment le travail d'archiviste, de passionné. Et moi personnellement, étant moi-même cinéphage, toujours à la recherche de trucs comme ça obscurs, j'aime bien tomber sur des gars qui font ça de leur vie, et puis qui arrivent vraiment à faire des pavés, parce que le bouquin, il y a vraiment plus de 400 pages, et il y a vraiment du contenu. Il parle de trucs, même quand on croyait connaître ce cinéma, en fait, il arrive a priori à faire découvrir des trucs encore. Donc,
j'avais écouté un podcast du Beverly, le truc de Tarantino, là, où il avait justement invité, je sais plus qui était l'invité, mais ils font des podcasts très sympas, et il y avait justement tout un podcast sur. Vraiment de l'exploit, mais exploit vraiment en dessous du cinéma d'exploitation. J'avais vraiment checké 2-3 trucs, et il y avait des trucs, notamment un sous-genre de film qui était le film de Bigfoot. On n'avait jamais vu, est vraiment un vrai sous-genre, et il y en a plusieurs. Considérer lui comme un chef-d'œuvre, l'autre pas comme un chef-d'œuvre. Voilà, des films. C'est souvent des films qui durent 1h05, voire même pas, et complètement fauchés, complètement, mais qui peuvent être hilarant.
La Bigfoot exploitation.
Ouais, voilà, exactement, mais j'avais halluciné. Et pour le coup, recommander un site, bon, faudrait pas trop le faire parce que c'est un petit peu illégal, mais qui s'appelle Rare Lust, et sur lequel on peut trouver, alors si vous êtes bilingue, parce qu'il y a vraiment pas de sous-titres, mais souvent pour trouver des films très très rares comme ça, Rare Lust, c'est trouvable.
D'accord.
Dessus, ouais.
Je te laisse nous redonner quand même le nom de ton livre.
Donc ça s'appelle Horror Porn, la fesse cachée du cinéma. Et c'est dans les bonnes crèmeries en ce moment. Voilà.
Merci. quant à moi, Nam, bonjour. Merci. Alors moi, ma recommandation, alors je vais être moins original ou... moins original, voilà, que mes compères ici présents. Parce que moi, là, je vous recommande la série Sweet Tooth sur Netflix, qui est une histoire de conte post-apocalyptique. C'est-à-dire que bah, l'apocalypse est arrivé. Il y a un virus, comme par hasard. La BD est sortie avant, donc ça, aucun rapport. Mais il y a un virus qui est sorti, qui a dévasté une bonne partie de la population. Et parallèlement à ça, à partir d'un certain moment, tous les nouveau-nés qui naissent sont des mutants. Mais c'est des mutants trop mignons. Alors, ils ont des... il y en a une, elle a un nez de cochon. Il y en a un autre, il a des boîtes de serre. Voilà, on est sur des individus mi-hommes, mi-animaux. Et on en suit un, du coup, qui s'appelle Gus, qui doit avoir 12 ans, à peu près. Histoire, c'est qu'il cherche à retrouver sa mère. Et il y a un côté assez haï, le film de Spielberg, où on a vraiment un univers... Bah, c'est du post-apocalyptique, donc c'est pas très joli ce qui s'y passe, mais vu par le prisme des yeux d'un enfant, qui du coup a un regard qui est beaucoup plus... qui est très innocent sur les différentes situations, et c'est très sympa... C'est très mignon.
C'est combien de temps les épisodes?
C'est du 50 minutes l'épisode. C'est une saison de 8 épisodes.
Ah bon, ça va, parce que Netflix, non, ça me méfie.
Il y a la pub au cinéma pour un Sweet Tooth.
Ouh, je sais. Ouais. Mais voilà, pour le coup, j'ajoute en disant que oui, c'est vachement bien.
Je pense que ça fait la hype en ce moment. Après, je sais pas.
Je croyais que c'était un peu Heroic Fantasy, en fait.
Ah, pas du tout, il n'y a pas de magie dans le truc. Non, c'est juste qu'il y en a qui ont des aspects pas très humains.
Mais c'est adapté de...
Et c'est adapté d'une BD de...
Apparemment, il est plus dark hein, que le. Apparemment, ils en ont fait un truc justement un peu mignon fantasy. Dans apparemment, le truc de base est quand même plus.
La BD a l'air d'être beaucoup plus sombre, mais après, ouais. Là, ouais, c'est vrai que là, on est plus dans la série, dans un côté un conte un peu merveilleux.
Ouais.
Là où dans la BD, c'est plus le conte le conte d'il y a 4 siècles. Celui où t'as pas envie d'être le personnage principal. c'est la fin des recommandations. On vous retrouve très vite pour les émissions.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.